Et la question que nous vous posions vendredi pour aujourd'hui était la suivante. Craignez-vous que l'Assemblée générale de l'ONU ne se transforme en un énorme procès, entre guillemets, d'Israël? Oui ou non? Pensez-vous donc que ce sera un grand procès d'Israël, cette Assemblée générale de l'ONU? Vous êtes 59% à penser que non sur X, et puis vous êtes 94% à penser que oui sur Facebook, et enfin sur Instagram, vous êtes 95% à penser que oui aussi, ce qui veut dire que si on fait le détail, eh bien il y a que sur X qu'on est optimiste d'une certaine façon, tandis que sur Facebook et Insta, c'est un pessimisme plus que majoritaire. Lise, je vous laisse en parler avec notre invité ce matin. Il s'agit de Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. C'est dire s'il sait de quoi il parle. Je vous laisse avec lui.
Alors, justement, Yehuda Lankri, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous craignez que cette Assemblée générale de l'ONU qui démarre lundi prochain, elle ne se transforme en procès d'Israël?
Je n'ai jamais rien entendu de l'Assemblée générale, car depuis 67, ce moment de transformation géopolitique dans notre région, après la guerre des six jours et la grande rupture avec le monde arabe et les Palestiniens, toutes les assemblées générales qui se sont succédées, c'était en fait un procès continu d'Israël dans l'Assemblée générale. Pour vous donner un exemple chiffré, chaque année, il y a plus d'une vingtaine de résolutions qui sont votées contre Israël, contre le seul Israël au sein de l'Assemblée générale, à des majorités écrasantes, 150, 160 États membres, et peu de soutien, nous venons des États-Unis essentiellement. Mais retenez que les États-Unis n'ont qu'une seule voix à l'Assemblée générale, ils ne sont pas aussi influents qu'ils le sont au Conseil de sécurité. Les quelques îles du Pacifique qui entretiennent des relations amicales avec les États-Unis dans sa foulée avec Israël, et quelques pays aussi là, qui se distinguent par un vote de confiance en Israël. Donc, il n'y a pas de surprise à l'Assemblée générale. Rien de bon ne peut y émerger. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Israël s'abstient et ne propose pas des projets de résolution au sein de l'Assemblée générale, parce qu'on sait que nous n'avons aucune chance de les faire passer. Même si la résolution est totalement neutre, mettons, qu'elle touche à la science, à l'éducation, au climat, à partir du moment où ça vient d'Israël, ça suscite l'âne, ça suscite l'adversité. Donc nous y allons pour évidemment y participer, essayer de réduire les dégâts autant que possible. Mais pour vous donner des exemples encore plus frappants, souvenez-vous qu'en 76, l'Assemblée générale avait adopté une résolution par où le sionisme était qualifié de racisme. Sionisme équivaut racisme. Il a fallu 16 ans de labeur pour que, suite à 76, et on se souvient encore de ce geste tout à fait exceptionnel de l'ancien président de l'État d'Israël, Haïm Herzog, qui était à l'époque l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, avait déchiré en pièces la résolution. Il a fallu attendre 16 ans pour que un lointain successeur, David Levy, puisse obtenir l'abolition de cette même résolution par la même Assemblée générale. Donc, il y a eu des moments où des procès aigus de ce type ont eu lieu. Sinon, c'est la routine, c'est-à-dire qu'on vote une vingtaine de résolutions contre Israël. On en a réduit un petit peu le nombre après les accords de paix avec l'Égypte et la Jordanie. Mais pour l'essentiel, c'est la routine israélienne lors du débat général de l'Assemblée générale.
Alors, il y avait ce vendredi une première réunion préparatoire avec un certain nombre de pays. Ils ont donc sorti un texte qui a été voté par 143 pays, seulement 10 abstentions, dont Israël et les États-Unis. et non, 10 qui ont voté contre, pardon, et une douzaine d'abstentions, ça laisse imaginer ce qui va se passer lundi prochain lors du vote de cette fameuse conférence organisée par la France et l'Arabie Saoudite.
Alors, le score que vous venez d'indiquer n'a rien d'exceptionnel. C'est encore une fois la routine à l'Assemblée générale, d'autant plus que on parle de ces 140 États membres qui reconnaissent la Palestine depuis belle lurette, il y a bien longtemps, avant même que la France prenne avec l'Arabie Saoudite cette initiative. Alors, il s'en ajoutera quelques membres le lundi prochain. Encore là, rien de surprenant. Évidemment, Israël a essayé de convaincre ses partenaires en leur expliquant que la reconnaissance ici et maintenant de la Palestine, c'était un contresens parce que ça va directement glorifier le Hamas. Alors c'est vrai que le président Macron, le ministre Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères en France, se sont efforcés d'expliquer qu'il ne s'agit pas d'une récompense au terrorisme ni au Hamas. Et je les trouve de bonne foi, c'est-à-dire que je crois à ce qu'ils disent, mais qu'ils le veuillent ou pas, le Hamas, terroriste, l'éventreur, l'égorgeur, c'est aussi un récupérateur cynique. Il en a fait sa propre victoire diplomatique, quoiqu'il ne s'occupe pas de diplomatie. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'élimination d'Israël, pur et simple. Il ne veut pas d'État palestinien. Ce n'est pas là qu'il se dirige. Mais, en passant, il glane cette victoire pour l'ôter à l'autorité palestinienne, pour indiquer aux Palestiniens qu'il est le seul facteur valable dans le terrain palestinien. En tout cas, les auteurs de cette initiative, la France notamment, mais aussi quelques pays européens ou le Canada, etc., qui s'y joignent, on a tenté de leur expliquer que c'était une initiative tout à fait intempestive, précipitée, qui récompensait d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, avec toutes les précautions prises, le Hamas, on le voit bien, il claironne avec sa victoire. Ensuite, je peux vous dire qu'en Israël, c'est, y compris le peuple de gauche, sans qu'il ait en fait humilié par ce type de reconnaissance. Non point que moi, personnellement, ou le peuple de gauche en Israël soit contre l'État palestinien. Nous trouvons l'émergence, l'existence, l'établissement d'un État palestinien en bonne et due forme aux côtés d'Israël, agréé par Israël, sur la base d'un accord bilatéral entre Israël et les Palestiniens, nous trouvons que c'est en fait la solution juste à adopter, la solution à deux États. Mais il y a une différence, il y a une distinction entre l'établissement d'un État palestinien dans le cadre d'une solution à deux États et cette reconnaissance prématurée, précipitée et non seulement bénéficie au Hamas, mais en quelque sorte blesse l'âme collective israélienne. Il y a là une forme d'indécence insoutenable. Même en diplomatie, on aura beau nous expliquer, nos amis français le font, il ne s'agit pas de récompenser le Hamas. Encore une fois, je crois leur bonne foi, mais ils sont eux-mêmes débordés par l'acte qu'ils ont mis en route.
C'est vrai, Yehuda Lankri, que dans ce texte préparatoire, cette résolution, elle condamne l'attaque du 7 octobre, elle appelle à la libération des otages et surtout, ce qui était un peu la surprise, elle exige que le mouvement terroriste islamiste mette fin à son pouvoir à Gaza et remette ses armes à l'autorité palestinienne. Est-ce que ça, sur le terrain, c'est réaliste?
D'abord, il faut saluer les rédacteurs de cette initiative qui prennent quand même le soin d'indiquer que le Hamas n'existera plus en tant que facteur dominant à Gaza, le désarmer, le destituer de son pouvoir politique est une chose très importante. Il y a encore en promesse le fait de tout faire pour intégrer Israël à sa région, Le président Macron personnellement avait évoqué plusieurs fois cette idée en disant que il travaillerait à faire reconnaître Israël par les pays de la région. Donc il y a là un enjeu considérable. Tout n'est pas obscur dans cette démarche. Mais pour l'essentiel, elle arrive à un moment inopportun. Il fallait trouver le moment ou le timing, comme disent les Anglais, convenable pour le faire. Sinon, réclamer l'établissement d'un État palestinien, c'est quelque chose de valide. Il faut le faire, mais en son temps.
Alors, la semaine prochaine, de toute façon, ça va sans doute se passer exactement de la même façon. Donc, un vote qui va être massif. On parlait de l'autorité palestinienne. Est-ce que les gens qui votent se rendent compte qu'elle est tout de même aujourd'hui impopulaire et corrompue, Yehuda Lankri?
C'est vrai, il y a beaucoup de défauts du côté de l'autorité palestinienne. Mais il faut dire qu'on a pu mettre en œuvre avec elle une partie des accords d'Oslo. Fondamentalement, la reconnaissance mutuelle entre Israéliens et Palestiniens après un siècle de négation mutuelle et quelques travaux d'approche en vue d'une coexistence. Sur le plan sécuritaire, il y a une coopération assez suivie entre l'autorité palestinienne et Israël, dans d'autres secteurs aussi. Donc on fait avec, il faut faire avec tant qu'il n'y a pas mieux. Les interlocuteurs du président Abbas l'ont invité à mener quelques réformes. Celles-ci doivent se faire, d'ailleurs pour le bien des Palestiniens eux-mêmes. Si l'autorité palestinienne était d'aventure réformée et pouvait contrôler, encadrer une sorte de gouvernorat ad hoc à Gaza à la place du Hamas, ça serait une évolution bienvenue.
Eh bien, écoutez, on ne sait jamais, on peut toujours y croire. Merci beaucoup, Yehuda Lankri, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et aux Nations Unies. Bonne journée à vous, à très vite.
Bonne journée, au revoir.